Bien, alors, bon, c'est la suite de ce qui s'est passé à la fin de la dernière paracha, où il y a eu quelque chose de tout à fait nouveau, si vous voulez. C'est que quelqu'un qui, inconnu au bataillon, quasiment, pas vraiment connu, quoi, il brave l'opinion générale, et sans en passer par un procès, il a tué un homme et une femme. Ça s'était jamais fait publiquement, jamais fait dans le clan Israël. Alors ici, ce qu'on nous dit ici sur Pinchas, c'est que, en réalité, il a fait deux choses, Pinchas. Premièrement, il a tué un juif, Bishvil Nikmat Kvod Hashem Shelo Yitralel. Il a tué un juif pour que le nom, pour la vengeance, comme vengeance de la, par rapport à la gloire divine qui a été profanée publiquement de la sorte. Et ça, c'est une halakha qui s'appelle Kanaim Pogimbo, c'est-à-dire les zélés l'attaquent. C'est-à-dire, l'halakha, elle dit que quand il y a un juif qui a un rapport avec une non-juive, si quelqu'un est vraiment outré, au fond de lui-même, il devient ce qu'on appelle Kanaï, ça veut dire qu'il se met à la place d'Hachem, en quelque sorte. Alors il peut intervenir sans en passer par le Beddin. Ce qui est évidemment une opération très dangereuse, parce que tous les illuminés de la Terre peuvent très bien décider que, voilà, ce qu'ils voient faire par X ou Y, ben, ça leur paraît inacceptable, et ils vont... C'est sûr que c'est la porte ouverte à des abus. Maintenant, ce qu'a fait Pinchas, je crois, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais c'est sûr qu'il a fait quelque chose et il a, ce faisant, risqué sa vie. Parce que si Zimri, qu'il avait embroché avec sa copine, si Zimri s'était retourné et avait tué Pinchas, Zimri est en état de légitime défense. On ne lui aurait rien fait à Zimri. Donc Pinchas, il risquait sa peau. Et en plus, son opération, elle, en vérité, c'était étrange, parce que, à vue humaine, son opération, elle ne pouvait pas réussir. Alors, comment est-ce qu'on peut... C'est pas marqué que Pinchas c'était pas un géant, c'était pas un type qui est qualifié pour les Jeux Olympiques pour halter, etc. Prendre deux personnes, soulever deux personnes, même si on peut imaginer que la princesse elle était très mince et tout. Que même à supposer que Zimri était aussi mince, mais deux personnes, deux adultes, les soulever, ben c'est déjà difficile. Mais arriver à les embrocher, parce qu'il fallait les embrocher quand eux, ils étaient déjà dans l'acte de pénétration, avec une lance, comme ça. D'accord? Alors, bon, les Chazal disent, la lance, elle aurait pu se briser. Non, c'est pas fait. Les lances, elles sont pas faites pour, a priori, c'est... porter deux personnes et ensuite probablement des gens qui finalement ne sont pas allés bouger, ils n'allaient pas se laisser faire quand il les a commencé à les embrocher, ils vont essayer de se dégager. Je veux dire, comment est-ce que, à part la lance elle-même, il y a lui, comment il peut les tenir et tout, et puis il y avait tous les gens autour qui sont paralysés, mais qui il y a des gens qui sont de la même tribu que Zimri et qui a priori vont l'agresser, vont essayer de délivrer Si vous voulez, c'est, à vue humaine, c'était pas faisable, c'était pas réussi. On peut pas réussir à vue humaine une chose pareille. Tuer une personne, on peut encore imaginer, d'accord. Si une personne ne s'y attend pas, bon, même si vous n'êtes pas obligatoirement plus fort qu'elle, alors, si elle ne s'y attend pas, on peut éventuellement réussir, mais deux personnes comme ça. Donc il a, en fait, ce qu'il a fait, il a voulu venger la gloire divine qui était profanée, de la sorte. La deuxième chose, c'est que Razal dit « Uifkir et kol la'olam haba ». Donc en fait, il a mis en jeu tout son olam haba. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour le clan d'Israël, pour que la, pour que, comme on a vu, que la maguefa s'arrête, pour que le fléau s'arrête. C'est marqué dans le Passouk, dans Sanhedrin, en se basant sur le, sur un verset dans les psaumes. C'est marqué, Vayahamod Pinchas Vayfalel, que Pinchas était là, Vayfalel. Alors, la Gemara dans Sanhedrin, elle fait une dracha, elle dit, Sheasa Plilot Imkono. Parce qu'il a, il a argumenté contre Hachem. Il lui a dit, Al Ele Yargu Kavdalet Elef Mi Israël, à cause de gens comme ça, tu vas tuer 24 000 juifs. Dans la Gemara, c'est marqué que les Malachas Charet, les anges de service, ils voulaient le repousser. Et au Chalmé, on dit « Bikshu le Nadoto », c'est-à-dire dans le service, il voulait le mettre en nidouille, c'est-à-dire lui enlever tout son olam haba. C'est ça que je veux dire ici. Donc il a fait ces deux choses-là. La première chose, maintenant nous... d'Elazar. La première chose qu'on la trouve chez Elazar, son père, parce que c'est marqué que quand Aaron est mort, et vous vous souvenez, les nuées qu'on avait, qui accompagnaient le peuple d'Israël, elles étaient là par le mérite d'Aaron. L'eau par Myriam, les nuées par Aaron, et la manne par Moshe. C'est comme ça que les Bnei Israël vivaient dans le désert. Quand Aaron est niftar, Aaron est mort, alors les Ananim s'en sont allés. Et donc, les Bnei Lévi, en double Lévi, velachamou. Argou Israël, le man kvod Israël, ve akadosh borchou. Puis d'Amar, comme la Gemara le dit dans l'Yerushalmi, en fait, on dit Nessi Nessiye Halevi Elazar ben Aaron, le prince des princes d'Aaron, de la tribu de Lévi, c'est Elazar, le fils d'Aaron. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait là, à ce moment-là, sur son ordre. Et c'est pour ça que on a présenté Pinchas en disant Pinchas ben Elazar. Chaque fois que quand quelqu'un fait quelque chose et qu'on veut indiquer que ce qu'il fait a à voir avec, disons, son patrimoine génético-spirituel, quoi, alors on mentionne l'ancêtre dont il est l'enfant. Shiratzal Achikam Ad Yom Macha, c'est qu'en fait Aaron lui-même, et on dit aussi Aaron, c'est marqué que Aaron a voulu, dans l'histoire du Vaudor, il a voulu gagner un jour. Il a dit, Machar, demain il y aura une fête pour Hachem. Mais les Bnei Israël ont tout de suite fait la fête. Et donc Aaron s'est dit, d'ici demain, Moshe sera sûrement là, donc j'annonce la fête pour demain, et elle n'aura pas lieu. Mais elle a eu lieu parce qu'ils l'ont fait tout de suite. Et ensuite, il a décidé de il a finalement fait le Hegel en disant, il vaut mieux que qu'Hachem se mette en colère contre moi et que les bénis Israël ne disparaissent pas. On a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi ils auraient disparu. Vous vous souvenez, Cohen Venavi, bon, lui il était à la fois Cohen et Navi, et si le clan Israël tue le Cohen et le Navi, c'est-à-dire le Cohen c'est la Avoda et le Navi c'est la parole d'Hachem, un clan Israël qui fait pas d'un, qui n'a rien à voir avec le service d'Hachem et il n'étudie pas la Torah, il n'a pas de raison d'être. Donc, quelque part, les Bnei Israël méritaient d'être détruits. Ils n'ont pas été parce qu'Aaron a pris sur lui de, il s'est dit, vaut mieux que je leur fasse faire une faute. Je serai moins coupable et eux, en tout cas, voilà, ça va aller. Donc, par amour pour le clan Israël. C'est pour ça qu'on dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron. Et du coup, quand Hachem a nommé Pinchas, puisque c'est ce qui va être dit ici, c'est que Hachem a donné à Pinchas la Keuna, Vaïta lo ulzaro acharav. Vaïta Keuna tola. C'est-à-dire l'alliance qu'Hachem a proposée à Pinchas, c'est une alliance qui englobait lui et toute sa descendance. C'est-à-dire qu'il lui a donné un statut de Cohen. Et quand on est Cohen, ben, toute la descendance est Cohen. Du verset, on a l'impression, puisqu'il a fallu dire que c'était aussi pour sa descendance, on a l'impression qu'on aurait pu imaginer qu'Hachem lui donne à lui seul le statut de Cohen, mais pas la possibilité de transmettre à ses enfants. Lui, il aurait pu jouer le rôle de Cohen et puis c'est terminé. Donc, Vaïchaper al Bnei Israël, comme donc c'est écrit dans le Pasuk, c'est Kaparat Dvarim She'asa Plilut Imkono le Toaliut Auma ou la Avata. Donc, il a fait toute cette discussion pour essayer c'est un plaidoyer pour les Bnei Israël, par amour pour les Bnei Israël. Il s'est lui mis en quelque sorte en opposition avec Hachem. Il a critiqué ce qu'Hachem faisait. Hachem était en train de envoyer un fléau, il l'a dit, quoi. Il y a déjà 24 000 morts qui sont là. Pourquoi? Pour des trucs comme ça. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais ce sont des bêtises. Est-ce que ça mérite vraiment 24 000 morts? C'est énorme, 24 000 morts. Et à la limite, si Pinchas n'était pas intervenu, ça aurait continué. Un fléau qui n'avait pas de raison de s'arrêter. Donc, le clan d'Israël était en train de se détruire. Donc, la réflexion qu'on doit avoir, c'est quand même, finalement, qu'est-ce que c'est que cette sévérité pour quelque chose qui nous paraît pas si fondamental. Je veux dire, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas ce qu'ils ont fait. Bien sûr, la technique était, il faut. On en a déjà parlé, je crois. Avant de céder, les princesses, elles disaient, il faut que tu serves mon idole. Et il dit, non, je ne sers pas ton idole. Elle dit, mais si, parce que c'est, tu sais, c'est rien du tout, il suffit que tu défèques sur l'idole. Ils ont dit, bon, c'est des trucs comme ça, on peut le faire en pensant que dans le monde entier, c'est quand même un acte de mépris, cet acte de déféquer sur quelqu'un. Quelque chose, c'est plus que j'irai cracher sur vos tombes, je veux dire, non, c'est plus que ça, a priori. Donc, les Israël, quand ils ont fait ça, ils se sont dit, peut-être, je manifeste mon mépris. Ils n'ont pas pensé que c'est ça, c'est comme ça qu'on adorait cette idole-là. Aujourd'hui, c'est, comme on a, je crois, enfin, faut m'arrêter, mais, c'est l'histoire de la récupération. C'est une industrie florissante, la récupération. C'était le fumier. C'est comme ça que, c'est ça le signe de la richesse d'un paysan, c'était à la hauteur de son tas de fumier. Qu'est-ce que c'est le fumier? C'est pas les excréments. C'est donc c'est bien la récupération de, c'est le cycle du carbone, enfin, peu importe, mais c'est, d'accord, donc c'est une idole qui indiquerait la récupération d'après ça. De même qu'il y a une récupération du mépris dans l'idole qui s'appelle Marcoulis. Il y a une idole qui s'appelle Marcoulis qu'on sert en lui jetant des pierres. Marcoulis, ça commençait par trois pierres, deux verticales, une horizontale, et puis on lapidait, on jetait les pierres. Et plus le tumulus grandissait, plus l'idole était adorée, quoi, quelque part. Donc quand tu vas jeter les pierres sur quelqu'un, c'est du mépris. Là aussi, donc le mépris, ici, c'est la récupération du mépris, parce que quand tu exprimes ton mépris, tu donnes aussi de l'importance à la chose. Bon, il y a des gens qui ne passent pas devant un temple idolâtre ou devant une église sans cracher, par terre ou dans la tête, etc. Mais quelque part, ça lui donne de l'importance. Ça veut dire, on sait très bien que la meilleure marque de ce que ça n'a pas d'importance, c'est une indifférence. Ça veut dire, je vais même pas me détourner à la limite. De ce point de vue-là, on pourrait imaginer que même si la route elle passe au milieu d'une église, ben, je passe à travers l'église. Je veux dire, se détourner, c'est lui donner de l'importance quelque part. Et donc même quand on insulte quelqu'un, c'est aussi lui donner de l'importance. La plus grande insulte, c'est de le considérer comme une quantité négligeable. On s'en occupe pas. Donc, on peut dire que la Avodah Zara des ministres à ce moment-là, hein, c'était pas grand-chose. Et le Issour, bon, alors il y avait un Issour d'aller avec ses femmes idolâtres, mais enfin bon, il n'était pas en train de se marier avec elles. C'était vraiment de la tava pure, du désir pur, quoi. Est-ce que ça vaut 24 000 morts? C'est ça le problème, n'est-ce pas?
C'est surtout dans le projet de Balak, c'était l'idée que je vais leur faire quelque chose que leur Dieu n'aime pas du tout.
Oui. L'accent était mis sur la Avodah Zara, c'est-à-dire que
les princesses étaient un moyen, voilà, pour
faire
cette Avodah
Zara, la grande faute. Non, c'est la grande faute. Non, c'est les mœurs.
Ah, c'est les mœurs.
Oui. Bilam, il a dit, ça, ils ne supportent pas, leur Dieu, ils ne supportent pas le problème des mœurs, donc c'est ça. Non, elles ont dit, c'est en plus, quoi, quelque part. Elle pensait peut-être leur faire une faute, mais Bilam savait de quoi il parlait. Il savait que c'était ça qui était intoléré, qui était Hachem déteste. Alors, il faut dire l'entendre comme ça, c'est-à-dire Hachem déteste qu'on utilise ce qui est censé construire le monde, quoi, pour par simplement du désir avec satisfaction de ses désirs avec une personne idolâtre. C'est pas très clair, disons, même pour moi c'est pas très clair quelle est la en quoi c'est tellement grave, quoi, si vous voulez. Mais ça doit être très grave puisque ça entraîne la destruction du clan d'Israël, je veux dire. Sans Pinchas, il n'y a plus que Israël. Donc ça. Oui, mais ce que je pense, c'est que la vérité, la halakha, elle est que si quelqu'un fait Avodah Zara, mais Ahava ou mais Sina, ou mais Ira plutôt, c'est même pas Avodah Zara. Alors ensuite, alors il, Pinchas ben Lazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Chamati, dit le pasuk. Il a, d'une certaine façon, il a apaisé, il a détourné ma colère, mais al bnei Israël. Ma colère qui était là contre les bnei Israël, bekano et kinati betocham, en reprenant à son compte ma jalousie, en quelque sorte. Là, de ce point de vue-là, ça irait dans ton sens, c'est-à-dire que là, s'il s'agit de jalousie, c'est plutôt le problème d'Avodah Zarah. Velo kiliti et bnei Israël bekinati. Et je n'ai pas détruit les bnei Israël dans ma jalousie, dans ma vengeance, en fait. Donc, c'est une phrase un peu redondante, n'est-ce pas? Eshiv et kinati, velo kiliti bekinati. Alors, peut-être que je vous dise que le Rav Amon qui dit ici, il ramène un Yalkut. Rosh Lakish dit comme ça. Vous savez qu'on dit Pinchas et Eliyahu. Le Pinchas et Eliyahu, à un avis, c'est le même personnage. Ce qui est un grand petit problème, c'est qu'en fait, on aurait dû dire que Eliyahu c'est Pinchas, parce que Pinchas est d'abord et Eliyahu plus tard. Cette question, le Zohar dit que Eliyahu Navi, c'est pas un homme avec qui est né de père et de mère. Mais le Zohar veut dire que c'est un malach, c'est un ange. Et donc de Pinchas et Eliyahu, ça veut dire que pour accomplir cet acte aussi extraordinaire, il fallait avoir la force d'âme d'un ange. Ceux qui voudraient prendre Pinchas comme modèle, il devrait toujours se rappeler que pour exercer la vengeance d'Hachem, il faut avoir une âme pure et sereine comme celle d'un ange. Donc ça veut dire que c'est offert, ça n'existe pas, quoi. Tu ne peux pas le faire. Alors, Rish Lakish dit dans l'Yalkut, il dit, Pinchas et Eliyahu, c'est la même chose. C'est marqué que dans les psukim, c'est écrit qu'Hachem a dit à Eliyahu Navi, comme tu as fait la paix entre moi et Israël dans ce monde, ainsi tu la feras à l'avenir. C'est pour ça que c'est marqué dans les derniers psukim du dernier prophète, c'est-à-dire de Malachi, c'est marqué Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Navi, voici je vais vous envoyer le prophète Élie dans le grand jour. Bon, Yom Agadol Ve'anora, quand viendra le grand jour, le jour terrible, redoutable. Et lui, Ve'eshiv lev avot albanim, ve'lev banim al avotam. Et lui, va ramener le cœur des enfants vers leur père, et le cœur des pères vers les enfants. Et il dit, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème, en fait. C'est ça qu'il dit vraiment le verset, dans les derniers versets de Malachi. Donc ça veut dire que c'est seulement à la fin des jours qu'on dira à ces canaïm, à ces zélateurs, ces gens extrêmement zélés, d'instituer la paix parfaite. En fait, ce qui se passe justement, c'est que ces zélateurs-là, ils se manifestent en général par un acte d'une très grande violence. Et ils sont reconnus par Hachem, mais en fait, ils sont rejetés par les hommes. Donc leur paix est une paix brisée, en fait. C'est pour ça que dans le verset 12, vous voyez, c'est marqué « Lachen est mort ». Ineni noten lo et briti shalom, le vav de shalom, il est brisé. Le vav, il est coupé au milieu. Pourquoi il est brisé, ce veuve-là, c'est justement pour ça, c'est parce que il ne sera complet qu'à la fin des temps. Le veuve ne sera complet qu'à la fin des temps. Quand effectivement, même les hommes reconnaîtront le bien fondé des zélateurs, les actes des zélateurs. C'est pour ça que dans le pastouk de Malachi, c'est écrit « Briti, mon alliance sera avec lui, Chaim ve'a shalom » et shalom est, chez Malachi, c'est le vav de shalom est entier. Alors, je crois qu'il cite le Zohar ici, mais pour l'instant je le vois dans le Ramamon qui dit qu'il semble que l'acte de violence chez les deux zélateurs, chez Pinchas et Eliyahu, ait été provoqué par la même défaillance d'Ibn Israël. Donc. Une atteinte à l'alliance sacrée conclue avec chaque juif et dont le symbole est la Mila, la circoncision. Les Israël dans le désert, ils ont profané ce symbole par justement des cohabitations défendues. Ils ont en même temps adoré des idoles. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Et à l'époque de Eliyahu HaNavih, la Mila était négligée. Et cet abandon était lié à l'idolâtrie, parce que, comme vous vous souvenez de Eliyahu HaNavih, il leur disait, vous avez un pied du côté du Baal et un pied du côté de Hachem, vous devez choisir. Alors, en fait, avec leur pied du côté du Baal, ils ne faisaient pas la Mila. Lui est présent à toutes les Milotes parce que c'est lui qui a... C'est pour que les Bnei Israël recommencent à pratiquer la Mila. Le Rambam, il écrit sur Eliyahu HaNavih, il dit « Nous trouvons qu'Eliyahu a possédé le don d'irritation. Quoi qu'il n'en ait fait usage que contre les négateurs et les mécréants. » Et les Chachamim ont dit que Hachem l'a rappelé à lui. Vous savez qu'Eliyahu donc, est monté dans le fameux chariot, il est monté vivant au ciel. Car il n'était pas qualifié pour mener les hommes et leur servir de guide. Il aurait pu les tuer. Il vit à un niveau trop élevé, quoi. Il y a un habit. C'est ce que dit Rambam. Donc Hachem dit, la reine est mort pour cette raison, il parle à Moshe Rabbeinu, dit, Hineni noten lo et briti shalom. Dit, publie en fait, je lui donne mon alliance de paix. Ve'aita lo ulzaro acharav brit keunat olam. Cette alliance de paix, c'est de faire de lui un Kohen. Tachat asher kine l'elokav v'echaper al bnei Israël. Puisqu'il a eu cette il a jalousé de la jalousie d'Hachem, si on veut parler comme ça, et qu'il a obtenu la capara pour les Bnei Israël. Alors le Meshech Chochma, il dit sur ce Ineni noten lo et briti shalom, il dit Bedin hu, dans le Midrash Rabbah, Bedin hu sheitolet tzcharo. C'est conforme à la halakha que Pinchas reçoive son salaire. Normal. Abiyur, maintenant il explique qu'est-ce qu'il veut dire ici. Le Midrash Rabbah, il dit que quand Hachem lui dit voilà, je publie, qu'il discute, on verra après, est-ce qu'il doit le dire à haute voix, etc., que je lui donne mon alliance de paix, la Kehuna, etc. Alors le Midrash, il vient dire c'est normal, hein, c'est son salaire. Il a reçu son salaire. c'est marqué dans le pasouk. Imrut tzadik kitov, ki prim aleihem yochnu. Alors, c'est le tzadik, c'est bien. Ouais, il va manger le fruit de ses actions. Alors, le Meshe Chochma, il commente, il dit, yeshne inyane mitzvot. Il y a deux sujets de la mitzvah. Il y a mitzvah achat linkom beose risha, ou la dof koale aven, shelo ilamdu acherim mimaseyem. Il y a une première mitzvah qui est de se venger contre ceux qui font le mal, et attaquer justement ces gens qui se conduisent mal, pour que les autres n'apprennent pas, pour qu'ils ne puissent pas servir de modèle aux autres. Vehema lo yafrichu pri rishatam vekerem Hashem kal Israël. Donc pour qu'ils n'arrivent pas justement à faire école dans le clan Israël. Et c'est ce que Rabbi Elazar ben Shimon a dit, kotsim ani mechale min hakeren. Il a dit, je détruis les ronces dans la vigne. Il y a des épines, des feuilles qui poussent en même temps que la vigne, c'est ça que je suis en train de détruire. Pour ça, dit-il, il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci. Akshamuru baolam agmul. Le salaire pour celui qui s'occupe de cela, c'est dans Olam Haba. Pourquoi? Shkivan shelo asa tov baolam amaase. Parce que il n'a pas fait du bien dans le monde, il a détruit. Alors, c'est pas un acte de bien, c'est un acte qui prend son sens de bien seulement du point de vue d'Hachem, si vous voulez, du point de vue des hommes. Les hommes, ils vont lui en vouloir, on va lire tout ce qu'ils ont dit sur Pinchas. J'ai payé le luxe d'agir de la sorte. Loken, ane mitzvot asher hema mi falot. Chesed v'tova. Ve'elu ochrin perotem ba'olam haze. Quand on dit qu'il y a les mitzvot dont on mange l'usufruit, les perotes dans ce monde-ci, c'est-à-dire donc il y a un salaire dans ce monde-ci, c'est seulement les choses qui sont liées au chesed, qui sont liées au bien que les hommes apprécient comme tel, au chesed. C'est pour ça que dans le pasouk du Navi Eshaya qu'on a cité avant, on dit Imrut tzadik kitov, Imrut tzadik sheoserak tov, s'il est un tzadik qui ne fait que du bien, c'est-à-dire il fait du bien devant Hachem, aux yeux d'Hachem, mais il fait aussi du bien tel que les hommes le ressentent, les hommes ressentent qu'on leur fait du bien, dans ce cas-là, Ochel perotem ba'olamaze, dans ce cas-là, c'est marqué qui prima lehem yochelu. Ils vont manger le fruit de leurs actions. Mais si les tzadik shose nakem ou mekane vedan oseresha, mais si il est un tzadik qui en fait venge Hachem, qui juge les gens, qui font le mal, etc., c'est marqué. On sait, enfin, les Chachamim disent dans Masechet Pea, dans l'Yerushalmi, ils disent Aschut, les mérites. Dans le mérite, il y a Keren et il y a Perot. Il y a le capital et il y a les intérêts. C'est marqué Imru, Tzadik, Kitov, qui prie les fruits, les intérêts. On sait que Chazal font une dracha, ils disent Malcha po Eliyahu. Chazal disent, qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu Anavi? La Gemara, elle dit comme ça, Amar Rava, il dit Asberali, il dit, c'est un autre Chacham, il m'a expliqué sur le verset Imu Tzadik Kitov, ce verset donc de Yeshayahu, Yesh Tzadik Tov et Yesh Tzadik Shenotov, Tzadik Kitov, il y a un Tzadik qui n'est pas bon, et là, Tov le Shamaim, Velabriot, c'est Tzadik Tov. On a vu avant. Quelqu'un qui est, il est bon pour le ciel et bon pour les créatures, ça c'est Tzadik Kitov. Tov la Shamaim verra la briot, quelqu'un qui se conduit bien devant Hachem, mais les hommes, ça leur, il leur fait mal. Zeu Tzadik Shenotov, c'est un Tzadik, mais il n'est pas Tov. Et Rashi explique là-bas, sur Ravidi Asberali, Eno Dome Leelu. Danach kulu abriot ne'enim imenu. Venimsa tov la shamaim ve tov la briot. Quand les créatures, elles profitent de lui, alors c'est tov la briot aussi. Dans la mitzvah de Shiloh Haken, dans l'histoire, dans la mitzvah de renvoyer la mère pour prendre les œufs ou les oisillons, là-bas, on dit que c'est Tov la Shamaim. Ven kam Tov la Briot. Celui qui fait cette mitzvah, il fait le bien devant Hachem, parce qu'Hachem a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais aux yeux des créatures, c'est-à-dire, qui sont les créatures? Les créatures, c'est la mère et les petits. D'accord? À leurs yeux, ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est pour ça que cette mitzvah-là, elle n'est pas dans la mitzvah qu'on dit le matin chez Ochlim Perotem Ba'olamazé, Keren Kayemet Lolamaba, dans la liste, là, il n'y a pas la mitzvah de Shiloh Haken. D'après le Meshech Chochma, il ressort que tous ceux qui amènent des ennuis dans le monde, en fait. Même si c'est pour arranger le monde, ils sont tzadik shenotov. C'est-à-dire, ils n'ont pas de salaire dans ce monde-ci. Quelque part, si tu es notov aux yeux des créatures, alors, c'est pas juste que tu aies un salaire dans ce monde-ci, c'est ça le problème. Donc ici, dans Pinchas, il a fait ce qu'on appelle Maasenekem, ça veut dire il a vengé la gloire d'Hachem qui était profanée. Et il a tué un bonhomme, il a enfoncé sa lance dans le ventre. Une mitzvah comme celle-là, qui est bien kina les fautes d'Hachem, c'est vraiment du zèle pour Hachem, pour la gloire divine. Pour qu'on ne dise pas que c'est permis et que les gens ne viennent pas détourner le cœur d'Ebné Israël en se permettant, en disant qu'il est permis d'avoir des rapports avec des non-juifs, et bien ça, c'est un salaire qu'il ne devrait pas recevoir dans ce monde-ci. D'après ça, c'est pas Tov la Briot, donc il devrait avoir son salaire uniquement dans le monde du Gvoul, le monde du salaire, c'est-à-dire dans Olam Haba. Or Hachem, il n'a pas fait comme ça. Pardon? Pardon?
C'est du djihadisme à la juive. Moi, ça me fait penser à ça, mais c'est un peu ça. On attend la récompense dans l'autre monde, on n'est pas bon aux yeux des hommes, tout ce qu'on n'est pas bon, et on défend notre Hachem.
Oui. Bon, mais ça permet de prendre d'enlever des petites filles, les violer, les marier de force, etc. Oui. C'est pas tout à fait comme ça. Donc Hachem, il ne fait pas comme ça, il lui donne les pérotes dans ce monde-ci. Il dit, voilà, tu dois publier que je lui donne une récompense dans ce monde-ci, alors à la Kehuna. la raison pour laquelle, en fait, pourquoi il a reçu sa récompense, alors, puisque ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui mérite de récompense que dans le Mabba. Alors, c'est ce qu'on a vu ici, c'est que, à sa plilut, c'est-à-dire qu'en fait, il a négocié, en fait, il a attaqué Hachem sur le fait qu'Hachem était en train de faire mourir des Juifs à cause de ça. Et il a arrêté la Maguefa. Ça, c'est bon pour les Juifs. Ça, il leur a fait du bien. Le fléau s'est arrêté grâce à lui. Donc, il a sauvé beaucoup de gens. C'est le clan Israël était en train de mourir. C'est pas Hachem dit, velo chiliti et bene Israël. Chiliti, ça veut dire détruire complètement. Kilian. D'accord? C'est la chaîne colle. Tout. Donc, en fait, si une race n'intervient pas, le verset dit, Hachem dit, je détruis le clan Israël.
Mais à ce moment-là, on ne pourrait pas dire que si en fin de compte, son but, c'était quoi? C'était de faire du bien à ses frères juifs. C'est mis contre sa vie, dans ce cas-là, il doit mériter.
C'est ça qu'Hachem dit.
Voilà, donc,
c'est ça. Je veux dire, quand tu regardes, il a tué Zimri, etc., ça c'est pas bien, les gens n'étaient pas contents. Et alors maintenant, pourquoi est-ce qu'Hachem lui donne un salaire quand même dans ce monde-ci? Puisque c'est le genre de salaire. Le genre de mitzvah pour laquelle il n'y a de récompense que dans le monde à venir, il a expliqué. Parce qu'en fait, les Israélites ont gagné, qu'il a sauvé la vie. Donc maintenant, on a justifié pourquoi Hachem, lui, chez Pinchas, il lui donne un sra'a dans ce monde-ci.
C'est Hachem qui oublie de dire,
il dit à Moshe Rabbeinu de le publier. Et pourquoi? Et parce que ça, ils ont bien vu qu'il a arrêté la Maguefa. C'est pour ça que le Midrash dit Bedin hu sheitol tzra. C'est la halakha qui reçoit son salaire ici. Pourquoi chez Eshiv et Tramati et Al Bnei Israël, il a arrêté la Maguefa, il a arrêté le fléau. Le car, pour cette raison, il n'est ni noten loet briti shalom dans ce monde-ci. C'est ça dit le Meshech Chochma, le pshat du Midrash, d'après moi. Oui, il a tué
il a,
et...
Deux éléments, il ne fallait pas faire. Il a tué et il a été contre la volonté de Dieu quand même.
Enfin, il a contre. Il a critiqué, mais ça, Moshe Rabbeinu l'a fait tout le temps, il faisait ça tout le temps. Donc, quand Hachem dit « je vais détruire le clan d'Israël », alors Moshe Rabbeinu intervient pour sauver les Bnei Israël. Lui, il est intervenu pour arrêter le fléau, pour qu'Hachem arrête ce fléau. Donc, en fait, il a... tuer, et bon, ça, c'est pour le bien, pour que les gens ne prennent pas le modèle, d'après ce qu'on a vu, mais ça, c'est récompense dans le monde à venir, mais maintenant, il a arrêté la Maguefa, il a arrêté le fléau, en discutant avec Hachem, en disant, quoi, il y a 24 000 qui... L'expression est terrible, je veux dire, il dit, il y a déjà 24 000 morts, ça suffit pas, je veux dire, pour une faute pareille. Bon, ça explique pas complètement, disons, pourquoi... En quoi, on a vu, il lit comme ça, après ce que je vous ai lu de Rav Munk, en fait, l'erreur, c'est la profanation de l'alliance avec Hachem. La Brit Mila, l'alliance avec Hachem, elle était profanée en ayant des rapports avec ses idolâtres, avec ses femmes étrangères. C'est une profanation de la circoncision. C'est ça qu'il faut entendre, que c'est extrêmement grave, finalement. Parce qu'on a tendance à penser que la gravité d'un rapport, parce que la Torah le dit un petit peu comme ça, la gravité d'un rapport avec une non-juive, c'est que tu produis un enfant qui sera un non-juif. Donc tu produis un idolâtre supplémentaire. enfant. Il y a un enfant, cet enfant, il sera idolâtre. Il va suivre sa mère, c'est normal. Et donc tu produis. Et c'est ça la gravité en quelque sorte. Sous-entendu, à la limite, on pouvait imaginer que d'avoir un rapport avec une femme qui serait stérile, donc tu es sûr que tu ne produis pas de. Ce ne serait pas très grave, puisque si on disait ça. Mais si on dit que c'est une profanation de la circoncision, alors peu importe qu'elle soit stérile ou pas, c'est pas du tout dans les conséquences que c'est grave. C'est déjà grave dans l'acte lui-même. C'est clair? On sait un fidou, je veux dire, de la Selzoar, si j'ai bien compris. Autrement, et du coup, on comprend la gravité de la chose. Autrement, il y avait les questions qu'on s'est posées au début, mais pourquoi c'est si grave, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? L'idolâtrie, c'est pas terrible. Et ça, en quoi c'est difficile? En plus, c'est pas quelqu'un qui. Il n'était pas parti pour élever une famille avec qui il n'allait pas se marier avec ces femmes-là. Elle était là pour avoir des rapports, et puis c'est tout, quoi. Il s'agissait de les affaiblir. C'était la façon d'affaiblir le clan d'Israël, pour que Balak puisse arrêter de stresser que les Bnei Israël vont lui prendre son pays ou stériliser toute la terre de Balak. Parce que la fille là qui est avec la princesse qui est avec Zimri, c'est la fille de Balak. Donc il a prostitué sa propre fille pour arriver à ses fins. Bon, peut-être pour eux c'était pas très important, mais dans l'idée c'est quand même important que un roi prostitue sa propre fille pour sauver son pays, quoi. Mais parce que si elle y va pas, les autres n'y vont pas non plus. Les autres princesses ou importants n'y vont pas non plus, c'est-à-dire la princesse non payée de sa personne, elle y va aussi. Et c'est pour ça qu'elle dit, moi, j'accepte pas d'aller avec n'importe quel petit juif, quoi. Je vais qu'avec le chef, je suis la princesse, je vais qu'avec le chef. Et Zimri lui a dit, moi je suis plus grand que mon chef. Parce que moi, je vais te montrer. Je suis plus grand que lui, donc... Il va affronter Moshe en lui disant, mais qui t'a permis ta Midianite à toi? Tu veux m'interdire la mienne? Qui t'a permis? Donc il voulait montrer par là qu'il était plus grand que Moshe. C'est pour ça qu'elle, comme il est dans la démonstration, elle est d'accord. Elle va avec lui uniquement parce qu'il lui a dit qu'il était plus grand que Moshe. C'est intéressant parce que si on dit que le problème c'est la profanation de la circoncision, alors du côté des femmes, une femme avec un nom juif, il n'y aurait pas de profanation. Non, je parle de Pnouya. Non, on ne parle pas d'une femme adultère. Non, une femme, une jeune fille. Comment? Mais l'interdit est exactement le même, hein. Il est symétrique, là. Mais le problème, c'est qu'avec. Si on explique que c'est la circoncision, alors on n'arrive pas à dire. Alors il faudrait se demander s'il existe un équivalent de la circoncision chez les femmes qui serait aussi profané du fait d'avoir un rapport avec un non-juif. Probablement le rapport est très clair. Je veux dire, c'est d'accepter en soi cette pénétration par un non-juif. Pour les Bnei Israël, comme c'est lui qui pénètre, on pourrait dire c'est lui qui reste le maître en quelque sorte. On dit mais c'est pas comme ça, c'est la circoncision est profanée. Mais elle se laisse pénétrer par un non-juif. Donc c'est ça la profanation. C'est ça la gravité du rapport de. Une femme juive avec une fille juive avec un non-juif. C'est pénétré par. C'est une domination, c'est une pénétration par un non-juif. Alors c'est marqué, Lachen est mort, ineni noten lo et briti shalom, va'aita lo ul zaroa achrav brit kemenat olam. Voilà, dis-leur, dit à Moshe. Alors, toujours le même Chochma, il explique que toutes les promesses qu'Hachem a faites aux hommes, elles sont susceptibles d'être modifiées par les fautes. C'est-à-dire que si on fait des fautes, la promesse, elle peut être modifiée. Je promets que je te donnerai ça et ça, mais si et c'est ça que craignait Yaakov Avinu, etc. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur que peut-être leur conduite a été telle que la promesse qu'effectivement Hachem leur avait faite, elle est peut-être plus valable, ou elle sera remise à plus tard, ou modifiée, etc. Ça, c'est une grande question de... Je ne sais pas, avec certains d'entre vous, peut-être pas ici. On avait vu que c'était l'objet d'une grande discussion. Il y a des opinions contraires. Ils disent que... Lui rapporte ici que, de manière que Yaakov Avinu, il a eu peur chez Maïgro Machet, donc il a eu peur que... au début de Vaishlach. Mais ce qu'Hachem... Bon, ça c'est si Hachem a promis à quelqu'un. On reviendra après sur le reste. Maintenant, si il a promis par l'entremise d'un prophète, alors la chose ne peut plus changer à cause des fautes. Si ça a été redit par un prophète. Im ne'emar be'ma'amar mukhlat. Si le prophète a dit, ce sera comme ça, alors, bon, il a parlé au nom d'Hachem, mais il l'a parlé, et du coup, ça bloque tout. Terminé. Maintenant, il n'y a pas de faute qui puisse remettre en question cette promesse, disons. Évidemment, s'il l'a dit sous condition, alors la condition va s'appliquer. Et c'est ça que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Pinchas, etc., Eshiv et Ramati, Velokiliti. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui dure, en fait. C'est, il a enlevé la faute du clan Israël, donc. Durablement, c'est un effet durable. C'est la raison pour laquelle est mort, dis-le. Parce que c'est, toi, tu vas le dire, cette promesse, c'est plus que si moi je lui promets. Si moi je lui promets et qu'il fait des fautes, alors, ma promesse, elle peut être changée. Mais si maintenant, sur mon ordre, tu le dis, que je lui promets, ça ne bougera plus. Donc il fallait que la Kehuna, elle devait être définitive, il ne peut pas être Kohen un jour et puis après ça pourrait changer. Ata Tomarlo, toi tu vas lui dire, c'est pas moi qui vais lui dire. Si moi je lui disais, encore une fois, vous rappelez, si moi je lui dis, alors c'est une promesse qui est faite à un homme, et ça dépend maintenant éventuellement de sa conduite. Cette promesse, elle peut être rapportée. Alors, bien qu'il soit un avis, un prophète, comme c'est marqué que Pinchas ben Elazar était prophète, Vaitalol Zaro Achrav Brit Keunat Olam, Shelo Igromachet, Velo Alide Shum Siba. Ni la faute, ni quoi, quelle que soit la raison, cette promesse, elle ne sera jamais changée. Et là, lui, Borman, qui est le commentateur ici, il dit que ça fonctionne avec Mida Keneged Mida. Étant donné que ce que Pinchas a fait est quelque chose de durable, à savoir il a enlevé la faute qui pesait sur le clan d'Israël et qui risquait de le détruire, c'est une action durable, alors la promesse, elle doit être aussi durable. La promesse, elle ne peut pas non plus être rapportée, enfin annulée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que même à l'époque du deuxième temple, il y avait des Kohanim Gdolim qui étaient descendants de Pinchas. Parce que quand il lui dit « Je te donne la Kehuna », il lui donne la Kehuna pour être Kohen Gadol, pas seulement pour être Kohen. Donc, le faire dire par Moshe, ça donnait ça assurait la pérennité de la promesse.
En plus, il y a une place à prendre d'abord.
Pardon, c'est ?
Il y a une place à prendre. Aaron était décédé d'abord.
Non, mais Aaron, il y a Élazar. Mais la place, c'est. Non, il y a Élazar. On va avancer un peu dans le texte. On va regarder le passouk dans le chapitre de Kavav, chapitre 26, le passouk Samech Alef, 61. 26-61. Pasuk, c'est marqué Vayamot Nadav Vavihu Beakrivam Esh Zara Lifnei Hashem. On est de nouveau dans le décompte d'Ebnei Israël, d'Ebnei Lévi en l'occurrence, et on mentionne Aaron qui avait 4 fils, et puis ensuite on dit Vayamot Nadav Vavihu, donc 2 des fils, Nadav Vavihu, 2 des fils d'Aaron sont morts. Parce qu'ils ont apporté un feu étranger devant Hachem. Au début de Sefer Bamidbar, quand on rapporte le fait, c'est marqué Uba Akrivam, c'était Bamidbar Sinai, Ubanim Loayu Lahem. On met l'accent sur le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Vaychen Elazar veItamar al pnei Aaron aviem. Et Elazar et Itamar ont été nommés Kohanim du vivant de leur père. Et le Midrash Rabba dit, dans la Parshat Acharemot, dit Amar Rabbi Meir, v'chip b'midbar Sinai metu. Est-ce que Nadav et Abihu sont morts dans le désert du Sinai? Et la Melamed, chez Mehar Sinai Natlu Hipofsin. C'est-à-dire, c'est un Xardin, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Hipofsin Shelahem le Mita. Machal le Meler. Donc, c'est une façon de dire, ce n'est pas qu'ils sont morts dans le désert du Sinai, mais tout le problème vient de ce qui s'est passé au Sinai. Machal le Meler, le Midrash dit, j'ai un machal, une parabole, le Meler Shaya Masibito, un roi qui marie sa fille. Et parmi l'entourage, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas au roi. Alors le roi dit, Im Orgo Ani Arshav. Si maintenant je tue ce type qui ne me plaît pas du tout dans l'entourage, Azani Marbeb Simchat Biti, je vais casser la joie de ma fille. C'est le jour de son mariage. Si je tue quelqu'un qui est quand même de son entourage, elle ne pourra pas se réjouir. Elle a le machar Simchati Ba. והוא תב בשמחתי ולא בשמחת ביתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אורגם עכשיו, אופת יזורי דו מוריר או סיני. סיש לטויאס ממולה, הרי אני מהרבה בשמחת ביתי, שתדיר, דומה, זה שכה מהשמחה, סביין רע. ביתי זה התורה. מפי זה לתורה. זה לשמחת דו לתורה, au don qui est donné au Sinaï, c'est le Simchat Torah, en fait. Et c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo. Les Chazal disent que Beyom Chatunato, dans Shir HaShirim, ça veut dire Beyom Chatunato, c'est Har Sinaï. Beyom Simchat Libo, c'est Oel Moed. C'est la tente d'assignation, c'est le Mishkan. Alors, Itachen, il se peut, qu'Alpi divrei un midrash dans le parashat Kedoshim, on puisse lire de la manière suivante. Abrechia, Abeshem, Ablevi, Amar, midrash. Adaou dirtiv, c'est ça qui est écrit dans le pasuk de Tehilim, Vata marom leolam Hashem, leolam yadcha be'elyona, Vata marom leolam Hashem. Toi, tu es en haut, en permanence, Hashem. Ça veut dire, leolam yadcha be'elyona. En réalité, ton action est toujours dans le monde d'en haut. Venoek sheba'olam, melech basar vadam, yoshev bedin. Donc, quand il s'agit d'un roi de chair et de sang, il siège. Bisman sheu noten dimu, kolaam mekalsinoto. Alors, quand le roi donne, il décide de libérer les prisonniers, enfin les accusés, pardon, alors tout le monde dit du bien de lui. Bisman sheu noten spekolat, bisman qu'il condamne à mort. En kol beria mekales et oto. Alors les gens ne lui font pas des compliments parce qu'il a tué des victimes. Ipne shem yodim sheyesh shetev bedino. Et pourquoi ils ne font pas de compliments? Parce qu'ils savent très bien que dans sa façon de juger, il y a des gens qui sont entraînés dans la mort parce que pour des raisons politiques, comme on dirait, ou des raisons annexes, des raisons de vengeance, etc. Ce n'est pas toujours juste. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא בדין, אלא בין במידת הטוב, בין במידת פורענות, ואתה מרום לעולם השם. סגדיל ורסה, toi tu es toujours en haut. Ça veut dire, que ce soit quand tu sanctionnes ou quand tu récompenses. לעולם ידך בעליונה. פירוש, דאם לבשר ודם יחטא אדם, si un homme faute contre un roi, Orgo le fit à Mishpat. Alors il va le tuer, et ça sera la justice. Aval ma sheyesh tsar le aviv shein lo ben. Ze shelo be Mishpat. Mais maintenant, le père qui aura son fils tué, lui il va souffrir. Donc ça c'est pas inclus dans le Mishpat. Ça, c'est, le père il méritait pas de souffrir. Le roi il a tué celui qui lui a manqué de respect peut-être. Mais il ne tient pas compte de, ce que la, de la souffrance du Père. Loken bemelech malchei amlachim, Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu sanctionne une personne, kulam chayavim, alors tous, s'il a pu le sanctionner, c'est que tout le monde autour de lui va recevoir une sanction, c'est-à-dire une souffrance, qui est à la hauteur de ce qu'il doit recevoir exactement. Donc ce n'est que quand tout le monde, tous les gens qui sont dans le voisinage méritent ce qu'ils auront comme souffrance du fait de la mise à mort de leur ami ou de leur voisin, etc., seulement dans ce cas-là qu'Hachem condamne. Hachem, il peut tenir compte de toutes les conséquences de la mort de quelqu'un, ce qu'évidemment aucun tribunal ne peut faire, et aucun tribunal ne tient pas compte. Enfin, ne tient compte de ça. Lachen, Nadav et Avihu, Shenitraivu Mita Mer Sinai. Pourquoi ils sont Chayav Mita Mer Sinai? Parce que c'est marqué Vayoklu, Vayishtu, Vayichazu, Elohim. C'est-à-dire, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont eu des visions d'Elohim. Ça ne les a pas empêchés de continuer de manger et de boire. Mais la souffrance d'Aaron du fait de la mort de ses enfants, c'est Bedin. C'est-à-dire qu'Aaron, l'Oaya Bedin, semble-t-il, on pourrait imaginer que la souffrance à ce moment-là d'Aaron, elle aurait, c'est pas juste. Quoi. Pourquoi ils ont mal fait, mais Aaron, il va souffrir de ça. La reine imtin adkad. C'est pour ça qu'Hachem a attendu jusqu'à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, Sheba Aaron le chaper chet à Egel ba Egel. Maintenant, Aaron, il a besoin d'une capara pour la faute qu'il a faite avec le Egel. Alors à ce moment-là, il amène un Hegel, c'est ça qui lui paraissait étrange, que le corban qu'il doit amener quand il entre en fonction, c'est justement un veau, et il s'est tourné vers Moshe, il dit, mais que ça veut dire, on me rappelle ma faute, quoi, quelque part. Esgamou chayav atzar lechaper alavon haegel sheasa. D'accord, il a amené la kapara, mais il doit avoir un certain tsar, et ce tsar-là, cette souffrance qu'il a, c'est la souffrance qui est la résultante, en fait, de la mort de Nadav v'Aviv. Mashen ken az, adayin lo yachayav Aaron. Mais à ce moment-là, en temps réel, au Sinaï plutôt, Aaron ne méritait pas de souffrir. C'est ça, ubanim lo ayu lahem. Il n'avait pas d'enfant. Ça veut dire quoi? Nadav et Aviou, quand on dit ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ça veut dire que s'ils avaient des enfants, les enfants ne méritaient pas de souffrir. Donc ils ne seraient pas morts. Donc c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Donc à la limite, leur mort ne touche que Aaron. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de son épouse, de l'Eshiva. Je ne sais pas. A priori. Bishvil chez Abanim, Loyulaim Av. Les enfants se seraient trouvés orphelins, et ça, c'est pas. Ça aurait pas été juste, ça. Vi Mishum Tsar et Lazar, Vi Tamar, je mets tout à Chéem. Et si c'est. Maintenant, il y a aussi les frères qui ont perdu un frère. Eux aussi, à Lazar et Tamar, ils vont souffrir de la mort de Nadav et Aviou. Eux, ils sont responsables ni du Hegel, ni de ce qui s'est passé au Sinaï. C'est marqué, Vaïchan et Lazar, Shayalaem, Iloui, Aliedeze, Shenitavu, Kohanim, Bim, Komam, Vaïchan, Metoub, Neharon. Eux, comme ils ne méritaient pas de souffrir, alors, et qu'ils vont quand même souffrir, ben, ça a été l'occasion pour eux d'une élévation, puisque Nadav et Aviou, ils auraient été Kohen Gadol avant eux, d'accord, et si ça se trouve, ils ne seraient jamais arrivés eux à la Kehuna. Mais Lazar et Itamar deviennent Kohenim, Gadolim, parce que leurs frères sont décédés. Donc ils ont une Aliya, si on veut, qui compense un peu la souffrance. Donc il y a la souffrance, et puis d'un autre côté, ben, il y a une Aliya, il y a une récompense, quelque chose.
Pourquoi le Kehuna n'a pas été distribué, aux quatre enfants de Aaron et des Lévi? Pourquoi d'abord on a eu Tamar et on a eu Nadav et Aviou, et ensuite, je me suis dit, j'ai du mal à comprendre ça. Et du coup, une race qui aurait hérité aussi de la Kehuna de leur terre.
Je ne sais pas pourquoi Hachem a. Il y a eu un moment donc, où il n'y avait que trois Kohanim, Bichlal, dans le clan d'Israël. Avec Aaron et ses fils. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Hachem a décidé que ce serait seulement ceux qui sont nés de. Quand leurs parents étaient Kohanim, alors les enfants seraient Kohanim. Mais ceux qui étaient déjà nés quand Aaron a été nommé, alors. Il y a ceux qui ont été nommés expressément, les deux, et Aaron, c'est tout. Personne d'autre. Mais je ne sais pas répondre à la question. Voilà, ça va être clair.